Bien bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. C'est l'édition du vendredi 21 septembre 2018. Hélène Bédard qui vous parle. J'ai avec moi ma fidèle collaboratrice Francine Forget.
Je suis bien heureuse d'être ici, dernière journée de l'été. Demain, l'automne arrive. Oui, demain, c'est le printemps. OK, on va se dire ça.
Merci beaucoup d'être là. Et à la régie, mon fidèle Maurice Bolduc.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors voilà, nous allons y aller avec une présentation sommaire de nos sujets.
Je vais faire ça vite, j'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui, je suis sûre que j'aurai pas le temps. Alors, donc, les faces cachées de la Lune, est-ce qu'il existe vraiment un siège des émotions? Les assistants vocaux sont-ils une menace à la presse? La gastronomie techno, la couleur des zèbres? Bref, je m'arrête ici.
Ouf! M'avait soufflé, là. C'est bon. Moi, de mon côté, je vais vous parler de Sylvain Cossette. Je vais vous parler de rêves de retraite. J'ai aussi un petit côté de santé, marcher pour sa santé. Et aussi, tant qu'à marcher, comment sortir de la rue un pas à la fois. Alors, après cette courte pause, nous vous revenons avec nos sujets. Alors voilà, nous allons tout de suite plonger dans les sujets essoufflants de ma collègue Francine. À toi, Francine.
Je suis calme maintenant. On va commencer par la technologie, les assistants vocaux. Est-ce qu'ils sont un avenir ou une menace pour la presse en général? C'est un article de La Presse Plus du 16 septembre 2018. C'est une journaliste de l'agence France Presse qui en est l'auteur, Rob Levert. OK, Google. Quelles sont les nouvelles? Les assistants vocaux constituent un nouveau débouché pour la presse traditionnelle, mais la rendent aussi encore plus dépendante des algorithmes des groupes technologiques, ce qui suscite des craintes pour le pluralisme de l'information. Des médias comme la BBC, le Washington Post, la radio publique américaine NPR ou encore le quotidien économique français Les Échos ont déjà mis au point des versions parlantes, disponible sur son téléphone intelligent ou son enceinte connectée via Google Assistant ou Amazon Alexa. Au menu, résumé des titres, articles, reportages, podcasts. Les enceintes connectées constituent potentiellement un terrain très riche pour les organes de presse, estime Damien Radcliffe, qui enseigne le journalisme à l'Université américaine d'Oregon-Ouest. Pour le consommateur, c'est une alternative à la radio ou à la télévision. Pour la presse, qui se bat bien souvent pour sa survie, ces technologies créent de nouvelles façons d'atteindre le public qui veut des infos, poursuit M. Radcliffe. Le cabinet spécialisé Gartner estime que d'ici 2020, 20% de la population des pays développés aura recours à des assistants vocaux. Selon une étude d'Adobe Analytics, 32% des foyers américains disposent d'une enceinte connectée et la plupart en font un usage quotidien. En avez-vous une enceinte connectée? Non.
Et non, j'ai pas ça.
Bon, moi non plus. On aime la discrétion. Et d'après un sondage Edison Research pour NPR, 77% des propriétaires d'enceintes connectées affirment qu'avoir les infos était une raison importante pour en acheter. À mesure que la technologie s'améliore, les consommateurs se sentent plus à l'aise avec la commande vocale et ils sont déjà habitués aux services audio et vidéo à la demande en streaming, explique Greg Sterling, qui est un expert spécialisé dans la tech, contributeur du blog Search Engine Land. Beaucoup d'organes de presse qui ont perdu des lecteurs avec le tournant du numérique voient ces nouvelles interfaces comme une chance, estime-t-il. Le Washington Post, détenu par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, propose des rappels de titres pour les appareils activés par Alexa, de sorte que les consommateurs peuvent dire « Alexa, qu'est-ce que j'ai manqué comme info? » Les assistants vocaux doivent vraiment de façon très claire à la plateforme le rôle de programmateur, celui qui choisit, trie, hiérarchise, info et source. Un problème particulièrement sensible en ces temps d'inquiétude croissante à propos de la désinformation. C'est une vraie question. D'où viennent les informations? Reporters sans frontières, RSF, estime que les assistants vocaux peuvent être un risque pour le pluralisme de l'information. L'assistant intelligent sélectionne les sources d'information et limite le nombre de résultats, parfois à un seul selon les critères, qui restent aujourd'hui largement opaques, s'inquiète l'ONG française. C'est trop facile de dire qu'on n'est pas un groupe de médias alors que nous vous distribuez du contenu et prenez des décisions sur la façon de diffuser, dit M. Radcliffe. Alors, c'est un article dans la Presse Plus du 16 septembre qui porte sur les assistants vocaux et jusqu'à quel point ils sont, je dirais, un ami ou une menace pour la presse en général.
Ah, à réfléchir.
À réfléchir, n'est-ce pas?
Oui. Voilà. Alors, de mon côté, je vais vous parler d'un sujet qui est marcher pour sa propre santé. Denis Fortier est, physiothérapeute, conférencier, blogueur, chroniqueur à la télévision et à la radio. On peut entendre ses chroniques à la télévision, Radio-Canada, de même qu'à la radio. Vulgarisateur scientifique reconnu, il compte déjà plusieurs publications. Son plus récent livre, c'est « Lève-toi et marche ». Le remède miracle existe et en plus, il est gratuit. Avec la marche, c'est clair qu'on peut se maintenir en santé. Que ce soit notre âge, 50, 60, 70 ou 80 ans, la marche nous procure des bienfaits très significatifs. On peut même dire, dans une certaine mesure, que peu importe notre condition physique, on peut bénéficier des bienfaits de la marche. Je connais des marcheurs de 85 ans et plus qui sont en excellente santé et qui sont en mesure de soutenir un niveau d'intensité assez élevé. Par ailleurs, la pratique de la marche ne commande pas nécessairement d'être un athlète. Et non, la marche est aussi possible pour les gens qui ont perdu un peu de leur capacité physique. Et le plus beau dans tout cela, c'est que la marche est une activité qui ne coûte rien. Une activité qui peut se pratiquer n'importe où. Une activité qu'on peut pratiquer seul ou en groupe. Il y a des gens qui aiment bien pratiquer cette activité seule, alors que d'autres le préfèrent marcher avec des amis. Pour la motivation que cela procure, c'est effectivement intéressant de marcher dans un groupe. Il y a plusieurs avantages concrets à pratiquer la marche. L'un des aspects de santé qui soit bien documenté, c'est vraiment l'aspect prévention, notamment la prévention du diabète, prévention des maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, il semble bien aussi que la pratique de la marche puisse contribuer à retarder l'apparition des symptômes tels de la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, ce n'est pas systématique. Pardon. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, comme les facteurs génétiques, quand on est un peu moins chanceux de ce côté. L'un des bienfaits de la marche est que cela contribue à stimuler un grand nombre de groupes musculaires, les plus gros muscles du corps, c'est-à-dire les muscles du dos, les muscles des jambes et les muscles des fesses. Or, ces muscles-là, on a souvent tendance à les oublier, surtout dans un contexte où on avance en âge, et cela particulièrement quand on est retraité. C'est malheureusement un fait reconnu que les personnes retraitées ont, on retrouve un fort taux de personnes inactives, malheureusement. Ces personnes sont très souvent en position assise. Or, cette position comporte des effets sur la santé par le fait que la personne assise ne contracte que très peu ses muscles. La marche pratiquée régulièrement vient compenser ces effets négatifs entraînés par la position assise trop prolongée. Pour marcher, il n'y a pas de technique particulière. Bien sûr, il faut s'assurer de porter de bonnes chaussures confortables, mais généralement, on ne se blesse pas en pratiquant la marche. Si on n'est pas déjà blessé avant de commencer à marcher, évidemment. En ce qui a trait à la durée, je recommanderais ce que recommande l'OMS, soit de marcher de façon raisonnable, environ 150 minutes par semaine, réparties sur 3 journées. Pour illustrer concrètement, disons que marcher de façon raisonnable, c'est marcher à un rythme qui peut nous permettre de parler, mais qui ne nous pourrait pas nous permettre de chanter. Alors voilà, intéressant comme exemple. Bien sûr, il s'agit là d'une recommandation. On peut marcher davantage si le temps nous permet, mais encore là, si vous ne marchez que 75 minutes par semaine, vous avez quand même un effet positif sur votre santé. en effet, moindre que si vous marchiez davantage, mais un effet positif quand même. Une autre façon de calculer, c'est de compter ses pas. C'est une façon de plus en plus populaire avec les différents moyens existants comme des téléphones intelligents ou des montres intelligentes. Combien de pas? Il est recommandé d'en arriver à 10 000 pas par jour. Mais plus, évidemment, on ne peut pas faire 10 000 pas le premier jour, mais on y va de façon progressive. Ce que je recommande, c'est d'augmenter de 1000 pas par jour. Au bout de 6 mois, on est rendu à presque 10 000 pas. Et si la perte de poids est également recherchée, on n'a qu'à maintenir un niveau d'intensité un peu plus élevé. Alors, c'était un très beau un reportage stimulant de M. Denis Fortier, paru dans la revue Virage au mois de septembre, qui est en train de se terminer, malheureusement.
Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, que je sais parfaitement que tu mens, tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu dois être un homme. Yeah. Et toi, dans ma vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tu joues avec le feu et tu t'amuses, mais un jour viendra où tu vas te brûler. Ha! Un autre a pris ta place et moi je l'aime, yeah. Et ce qu'il est, tu ne le sauras jamais. Ses bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter, car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
Ces bottes sont faites pour marcher par Muguette.
Excellent choix musical, Maurice. Merci. Alors, nous continuons nos chroniques. Je vais laisser la parole à Francine.
J'enchaîne avec un humanoïde. Je ne sais pas s'il marche, mais en tout cas, il bouge. Gastronomie techno. Alors, donc, le 16-16, un restaurant de Montréal qui s'est lancé dans la gastronomie techno. Sylvain Sarrazin de La Presse Plus l'a visité et il en parle dans l'édition du 15 septembre 2018. Une visite du propriétaire commence rarement par le sous-sol. Pourtant, c'est là que nous filerons en premier. Et pour cause, la vedette des lieux s'y terre. Au fond de la pièce, il trône et il en jette. Il est drôle, intelligent, a de la jasette, une belle gueule et aime vous servir des verres. Bref, il serait le gendre idéal si seulement il n'était pas un robot. L'impressionnant humanoïde, qui s'appelle R1B1, vous accueille comme nul autre barman ne le ferait. Il est unique au monde, assure Cédric Moindreau, qui est le directeur artistique du 16-16 et créateur de l'automate, mis au point avec son frère. Il fonctionne comme Siri. Nous l'avons reprogrammé pour qu'il s'adapte à la réalité culturelle québécoise. On l'a tout de suite entendu. « Salut Sylvain, je te trouve pas mal cute, mais je crois que je préfère ta blonde. » Lâche le robot avant de danser, puis de saisir au moyen de ses bras articulés un verre et une bouteille de champagne pour nous servir. Le champagne vient jusqu'à nous sur un tapis roulant. R1B1 bouge, blague, drague, mais surtout semble très bien saisir le sens des propos et des questions. On peut même se confier à lui. « De quelle planète viens-tu? » lance-t-il. « De la planète France, » lui répond-on. Et voilà qu'il commence à plaisanter sur Emmanuel Macron et sa compagne. Il s'est même rendu compte que le champagne qui a moussé parce qu'il n'avait pas eu le temps de refroidir avait un peu débordé. « Oups! » s'est-il exclamé de sa voix robotique. « Ça reste un robot. Il a droit à l'erreur, » nuance son concepteur. R1B1 est capable de servir 6 alcools différents, dont vins et bières, mais aussi des cocktails allongés. Ne soyez pas trop exigeants, il lui reste à apprendre comment servir des boissons plus complexes, comme un mojito, par exemple. Le restaurant-bar du sous-sol est ouvert du lundi au mercredi le soir seulement avec accès au robot. Alors, je fais pas de promotion de ce restaurant-là, mais c'est quand même amusant. Mmh. Et le dimanche, il est aussi ouvert le matin là pour le brunch. Maintenant qu'on a fait connaissance avec ce barman boulonnais, à l'étage, on continue la visite. Tout comme le sous-sol, le décor se veut sobre et élégant, noir et blanc, avec des éclairages mauve-rose, et tirant subtilement sur le futuriste, avec des formes murales géométriques diverses. Sur les tables où 65 convives peuvent s'installer, on note de petits boîtiers blancs, discrets mais évocateurs de la philosophie des lieux. Ce sont des pops qui permettent, avec n'importe quel cellulaire, d'appeler le serveur, le sommelier ou encore le voiturier. On ne l'utilise qu'à 10 ou 15% de ses capacités, car on veut quand même garder un contact humain, explique Cédric Moindreau. Ensuite, on visite la cuisine qui fait partie de l'étage. Elle est ouverte. On peut même réserver des places pour dialoguer avec le chef. Et on voit des monte-plats techno et une future imprimante alimentaire 3D, sans parler de cette technique de bouillon déshydraté inséré dans des capsules Nespresso. Alors, c'est un restaurant très, très particulier dont nous parle Sylvain Sarrazin, Gastronomie Techno, dans la presse plus du 15 septembre 2018.
Très bien, on va y aller, n'est-ce pas?
Ben, en tout cas, une petite visite, là. On parle de gastronomie, on ne sait pas, mais oui. L'aspect technologique, disons que c'est particulier.
J'aime ça. Merci, Francine. Pardon. Merci, merci Maurice, merci Francine encore. Je vais vous parler d'un texte. Tout à l'heure, je vous l'ai présenté. J'ai dit « Comment faire pour sortir de la rue? Un pas à la fois. » Difficile de tracer un profil type des personnes en situation d'itinérance tant ce phénomène a de multiples visages. Une chose est certaine, il y a souvent des rides dans le portrait. Puisque selon le dénombrement des personnes itinérantes à Montréal, réalisé en 2015, une personne sur deux fréquentant les refuges d'urgence a plus de 50 ans. Le pas de la rue accompagne ces personnes isolées, vulnérables et marginalisées. Un texte de Sophie Gagnon dans la revue Virage. Il n'y a pas une seule façon de tomber dans l'itinérance ou dans la grande précarité. Il ne faut pas généraliser. Les gens qui vivent l'itinérance n'ont pas tous fait de la prison et n'ont pas tous eu des problèmes de santé mentale, d'alcool ou de drogue. Certains sont très scolarisés, ont eu des emplois très payants, puis, tout à coup, ils ont connu l'itinérance pour la première fois à 57 ans, à 60 ans ou plus. Parce que pendant quelques mois, ils ne pouvaient plus payer leur loyer pour toutes sortes de raisons et que la honte ou l'éloignement de leur famille les a privés du soutien pour passer au travers de cette période difficile. Bref, qu'on se le dise, l'itinérance peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas non plus un mode de vie. Elle est souvent passagère ou cyclique. Par ailleurs, il faut savoir que parmi ceux qui fréquentent le PAS, P-A-S, de la rue, nombreux sont ceux qui veulent s'en sortir et souhaitent reprendre le chemin du marché du travail. Les 55-64 ans qui vivotent avec leur chèque d'aide sociale sont les plus motivés à trouver un emploi, ce qui n'est pas chose facile. Car l'âgisme s'ajoute au passage à vide plus ou moins long dans le curriculum vitae. Fondé il y a 20 ans par les petits frères, le PAS, donc le PAS veut dire pour personnes âgées seules. Donc, le PAS de la rue est le seul organisme à Montréal dédié aux personnes de 55 ans et plus en situation d'itinérance ou de grande précarité. Ce centre de jour accueillant, vaste, propre, calme et attention, climatisé, est d'abord un lieu de rencontre entraîné. Bien des gens passent la nuit à la maison du père ou à l'accueil Bonneau, viennent prendre leur repas, leur petit déjeuner ou une soupe à l'heure du lunch au pas, rue René-Lévesque-S. Il s'y trouve une ambiance où règne le respect et où le jugement n'a pas sa place. Ainsi est levé le premier obstacle à l'insertion ou à la réinsertion sociale, c'est-à-dire, et j'ai nommé, l'isolement. Qu'est-ce qui fait le plus cruellement défaut à cette clientèle? Ce sont des logements salubres, car l'insalubrité retourne continuellement les gens à la rue, explique M. Morel, directeur général du Pas de la rue. Quelques chiffres. Combien d'itinérants au Québec? Le premier dénombrement de personnes itinérantes effectué en 2015 avait permis d'évaluer le nombre à 3016 sur le territoire de Montréal. On attend les résultats d'une opération semblable réalisée en avril dernier et dans 11 autres régions du Québec. Quelques chiffres. 15 800, au-delà de 15 800 fréquentations du centre de jour en 2017-2018. L'âge moyen de ceux qui le fréquentent, 64 ans. Et 90 % des hommes parmi les personnes accompagnées. Le PAS a aussi pensé à l'intergénération comme moyen pour casser l'exclusion sociale et les préjugés qui frappent les personnes âgées vivant l'itinérance. En 2017-2018, 101 activités ont eu lieu de concert avec l'organisme pour jeunes, les Chemins du Soleil. Ce projet, Ensemble en action, a décroché le prix coup de cœur décerné par l'Intergénération du Québec. Les aînés apprennent ces occasions d'échanger avec les jeunes, jouer à des jeux, demander conseil sur l'utilisation de cellulaire. Quant aux jeunes, ils comprennent qu'il suffit de peu pour se retrouver dans la rue. Il se produit ainsi une contamination sociale positive, car ils parlent de cette réalité à leurs parents. C'était un très beau texte dans le volet Tendance de la revue Virage, écrit par Sophie Gagnon, paru très récemment en septembre 2018.
Cherche à comprendre, cherche pas à chercher. Tu veux te défendre, faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noir et blanc, qui donne des chaleurs à ton cœur d'adolescent. Gemini s'est mis à poudrer son nez. J'ai écrit avec un clou dans les pieds. 2000 ans après, c'est encore de ta faute. Ça peut pas t'empêcher de tout essayer. Yeah!
Hubert Lenoir, GC.
Merci beaucoup, Maurice. Alors, nous sommes en studio. Je redonne la parole à Francine Forget.
Oui, Hélène. Alors, le zèbre est-il blanc avec des rayures noires ou l'inverse? Alors, on pose la question dans Science et vie, le numéro d'été 2018. Les biologistes spécialisent la question, sont catégoriques. Cet herbivore d'Afrique centrale et australe est noir, rayé de blanc. L'observation de certains spécimens adultes pouvait pourtant laisser penser le contraire. L'une des trois espèces encore existantes, le zèbre des montagnes, tend à avoir le ventre tout blanc, ce qui suggère que sa robe est blanche et que les stries noires sont des motifs ajoutés. Mais l'étude de l'embryon du zèbre a montré qu'au tout début de son développement, sa peau est uniformément sombre. Les stries blanches n'apparaissent que par la suite, entre la troisième et la cinquième semaine de gestation. Les raies claires découlent d'une inhibition du gène nécessaire à la production de mélanine, le pigment colorant le pelage en couleur sombre. Il s'agit donc bien de zones non pigmentées qui normalement auraient dû être noires. Le zèbre ne déroge donc pas à la tendance générale qui veut que la plupart des mammifères aient une couleur dominante brune. Une sous-espèce de zèbre éteinte depuis le 19e siècle, le quagga ou couaga, avait d'ailleurs une croupe complètement sombre, les rayures n'étant présentes qu'à l'avant de son corps. Ce qui suggère qu'à l'origine, cet équidé était complètement noir. Les rayures blanches seraient apparues lors de l'évolution pour se protéger des moustiques, se camoufler ou se reconnaître entre individus, en tout cas les membres de cette espèce. Alors voilà la question résolue, on a la réponse.
Toujours, vous êtes fascinante avec vos découvertes. Ou est-ce que c'est un noir rayé blanc ou c'est un blanc rayé noir? Mais quand même, mais t'as jamais posé cette question-là.
On appelle ça un peu couper les cheveux à quatre, mais bon. Ouais.
Appliquer les rayures aux bonnes places aussi. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que nous passons maintenant à la pause. Nous vous demandons de rester avec nous. Nous vous revenons dans quelques instants. Oui, eh bien voilà, nous sommes de retour à l'émission Vues et Voix Magazine pour continuer dans le deuxième volet de cette émission. Francine, vous allez survoler quel sujet?
Alors, les faces cachées de la Lune dont j'ai pas eu le temps de parler et aussi l'impression des bras et d'artères avec une imprimante 3D. Et des brèves.
Et de mon côté, je vous avais annoncé que je vous parlais de Sylvain Cossette, ça va y être, ainsi que des rêves de retraite. Alors voilà, j'ai trouvé cet article fort intéressant, écrit par Michel Lemieux, toujours dans ma revue Chouchou, Virage. Sylvain Cossette, et ça s'intitule « Parce que chaque seconde compte ». À 55 ans, Sylvain Cossette semble animé par la même fougue qu'à 20 ans, mais doublé d'une sagesse nouvelle. Sa carrière se porte bien, sa vie de père aussi, ainsi que d'amoureux. Son inquiétude innée s'est estompée pour faire place à ce qu'on pourrait qualifier de « bonheur de vivre », qu'il se plaît à savourer au jour le jour, à l'aube de sa nouvelle tournée de spectacle. Gagner sa vie grâce à l'amour que les gens nous portent le rend philosophe. Une partie des gens t'aiment, d'autres ne t'aiment pas, et d'autres sont indifférents à ce que tu fais. Je regarde toujours les choses sous l'angle de ces trois tiers. Tiens, tiens, ça permet de clarifier les choses et de ne rien tenir pour acquis. Ça ne me déprime pas, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Nous, les artistes, sommes souvent à fleur de peau. Nous mettons constamment à nu devant les gens. Il y a des jours où notre peau est plutôt coriace, mais à d'autres moments, nous sommes vulnérables. Dans sa vie personnelle, Sylvain Cossette applique une autre règle, celle du 80-20. Être heureux 80% du temps et ressentir des insatisfactions 20% du temps. Ben tiens donc, quelle belle idée. Mais il y a un mais. J'ai eu 55 ans cette année. Fonctionner à plein régime en permanence, ce n'est pas toujours adéquat. J'essaie de baisser un peu l'intensité. Comme je veux faire mon show pendant longtemps, je suis persuadé. Je me suis demandé si je voulais donner 50 spectacles en 2 mois ou en 5 mois. qu'on s'en souvienne, il a été éprouvé physiquement, il a été opéré pour le cœur. Maintenant, il dit que tout va bien. Je pense que la mort est un concept abstrait jusqu'à ce que quelque chose d'important se produise. J'avais 40% de risque de mourir. Je n'ai pas vu le tunnel ni la lumière, mais cet épisode a bouleversé ma vie. Je suis devenue un peu plus vulnérable. Après avoir pris soin de mes filles, elles se sont occupées de moi. En vieillissant, nos oncles ou nos tantes meurent. Maintenant, je sais que chaque seconde compte. Sylvain ressent les changements bénéfiques qui viennent avec l'âge. J'ai tellement aimé vivre à 100 000 à l'heure que j'ai pu manquer de jugement. J'ai oublié de m'écouter, de faire attention aux signes. Maintenant, comme il dit si bien, il est un peu maniaque de café. Il torréfie ses grains de café pour le plaisir. Tous ceux qui ont goûté son café se sentent privilégiés. J'ai toujours hâte d'en préparer un, soit pour ma blonde ou soit pour un ami. Enfin, je regarde chaque journée comme l'occasion de m'amuser, de relaxer, de profiter de la vie. Je déteste faire des plans. J'aime me laisser guider par les rencontres et les coups de cœur. Alors voilà, c'était un petit survol, un clin d'œil, une photo, en fait, sur Sylvain Cossette à l'aube de ses 55 ans et qui dit que parce que chaque seconde compte. Alors, Francine, vous allez me parler de bras, de jambes,
Non, de la Lune pour commencer. On va descendre sur Terre après. Okay. Les faces cachées de la Lune, alors c'est un long article de Mélissa Guillemette dans Québec Science de septembre 2018. Je vous en fais un résumé alors que bientôt on va vivre la deuxième conquête de la Lune. Hein, elle se prépare 50 ans après la première. Les astronautes sont déjà allés sur la Lune. Ils ont d'ailleurs ramené plus de 385 kilos de roches. Pourquoi donc y retourner? Cette question fait toujours rire Ben Bassé, qui est scientifique en chef de l'exploitation à la division Advanced Exploration Systems de la NASA. La surface de la Lune équivaut à celle de l'Afrique et nous n'y avons visité que 6 endroits, très brièvement, pour jamais plus de 3 jours, rappelle-t-il au bout du fil, référant aux missions Apollo de 1969 à 1972. Ce serait comme d'avoir visité l'Ontario à quelques reprises et prétendre ensuite avoir fait tout le Canada, dit-il. La Lune, notre si proche voisine à l'échelle de l'univers, 380 000 milles kilomètres, est encore une inconnue à bien des égards, particulièrement sa face cachée, ce côté qui ne se dévoile jamais à la Terre. Mais ces secrets pourraient bientôt nous être livrés, car après l'avoir un peu délaissée, les agences spatiales ont à nouveau les yeux tournés vers elle, motivées par l'entrée en piste de joueurs comme la Chine et l'Inde. C'est sans compter les projets privés comme ceux de l'entreprise SpaceX qui veulent atteindre la Lune aussitôt que possible. En clair, les étoiles s'alignent et le rover chinois U2 en opération sur le sol lunaire depuis 2013 aura bientôt des petits copains. Outre les missions robotisées, les agences spatiales de la Chine, Russie, Europe, États-Unis, ainsi que les entreprises pensent aux missions habitées quelque part entre 2025 et 2030. Rien ne peut battre un observatoire présent sur place. Les yeux sont un instrument incroyable quand vient le temps d'analyser l'environnement, estime Ben Bossé. Bernard Foin, qui est directeur du International Lunar Exploration Working Group, un forum qui réunit les agences spatiales du monde entier, imagine même dans un village à la fois robotique et humain sur la Lune, et il est très sérieux. Il y aura des laboratoires pour travailler, des habitations pour vivre, des véhicules pour se déplacer, dit l'astrophysicien rattaché à l'Agence spatiale européenne. À partir de 2025, il y aura des missions à la surface de courte durée au départ, qui pourront être prolongées grâce aux ressources lunaires autour de 2030. Demain, quoi? Dans ce contexte, l'Agence spatiale canadienne, ASC, espère se tailler une place. Le Canada n'a pas de lanceurs, évidemment, donc on travaille avec nos partenaires internationaux pour fournir des technologies clés, uniques et avancées, qui nous donneront un rôle visible, explique Gilles Leclerc, qui est directeur général de l'exploration spatiale à l'agence. La première contribution serait de fournir un bras robotique pour la station orbitale lunaire. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on fournit des bras, n'est-ce pas? On est spécialisé. Alors, c'est pour ça probablement qu'on en imprime. On en parlera tantôt. Mais on étudie aussi d'autres solutions technologiques, les rovers et les télécommunications spatiales. Bref, l'astre de nuit, hein, notre belle lune, c'est un vestige précieux qui pourrait nous apporter des informations introuvables sur Terre. Au Canada, on est chanceux d'avoir encore quelques vieilles roches, mais pratiquement aucune n'a plus de 4 milliards d'années, explique Gordon Osinski. Puisque le système solaire a environ 4,5 milliards d'années, nous n'avons pas d'informations sur les premiers 500 millions d'années, et c'est la période même où les planètes se sont formées, où elles ont constitué leur atmosphère et leurs océans, et où la vie a peut-être pu émerger sur Mars ou ailleurs. Les roches rapportées par Apollo ne suffisent pas, car elles proviennent toutes de la face visible de la Lune et de son équateur. Il faudrait plus de diversité pour assouvir la curiosité des scientifiques. Bref, Hélène, je vous dirais que, comme Sylvain Cossette, il y a un petit 20% d'insatisfaction chez les chercheurs qui sont intéressés par la Lune. Alors, ils vont essayer, évidemment, de peut-être le mettre derrière eux. On ne sait pas, Québec Science, dans l'édition de septembre 2018.
Merci beaucoup, Francine, toujours. Hey, ah, c'est bon.
It's been a while. I was wondering how you've been with the kids. How's your
on vient d'entendre Berries, la pièce Wandering.
Berries, je pense que c'est C'est ma chanteuse préférée, en plus. Merci beaucoup.
Ou on dit Béris, excusez-moi. Je dis Béris, mais je crois qu'on dit Béris.
Ah, Béris, ouais, bon, désolé, j'ai copié sur vous.
Mauvaise influence.
Ah. Nous sommes de retour après cette très belle mélodie. Et Hélène Bédard au micro. Alors moi, je vais vous parler de rêves de retraite. Vous n'êtes pas sans savoir que les rêves de retraite ont un prix. Voici ce que Stéphane Desjardins nous explique dans la revue Virage, parue cet automne. Qu'est-ce qui est important à la retraite? Payer ses comptes ou réaliser ses projets? L'un et l'autre. Mais encore faut-il avoir les moyens de réaliser nos rêves. Certes, payer ses factures, c'est important. Mais à quoi ça sert d'être à la retraite si on se contente simplement de regarder la télé? Pour la majorité d'entre nous, avoir un travail donne un sens à notre existence. À la retraite, il faut compenser par autre chose, des projets souvent rêvés durant la vie active. Ce sujet est rarement abordé par les conseillers et planificateurs financiers. Une majorité se contente simplement de recommander à leurs clients de s'assurer de bénéficier de 70 % de leur revenu annuel brut moyen des 3 dernières années de travail. Question de maintenir un niveau de vie décent à la retraite. Dans ce calcul, les projets et les extras sont largement sous-estimés du point de vue financier. Les spécialistes affirment que certaines dépenses diminuent ou disparaissent à la retraite, comme cotisations syndicales, REER, impôts, vêtements, transports. Par contre, d'autres s'ajoutent avec le grand âge, car elles sont peu ou pas assumées par l'État, telles que certains médicaments, de l'aide ménagée, des soins spécialisés, le transport adapté, etc. Il faut en tenir compte puisque l'espérance de vie moyenne est de près de 81 ans pour les hommes et près de 85 ans pour les femmes. Les projets de retraite sont donc nombreux. Fournir une mise de fonds initiale à nos enfants pour l'achat d'une propriété, gâter nos petits-enfants, construire des écoles dans les pays pauvres, faire du vélo en Europe, passer une partie de l'hiver dans une destination soleil différente chaque année, sillonner l'Amérique du Nord en VR. Toutefois, la majorité des gens en sous-estime la facture. Ne pouvoir les réaliser sera difficile à avaler. Pour connaître le prix de vos rêves, allez-y par étapes. Faites une liste de vos projets. Prenez le temps d'énumérer les principaux aspects. Ensuite, magasinez, contactez les fournisseurs, les marchands, les voyagistes, les spécialistes, comme si vous alliez réaliser ce projet cette année. Complétez vos recherches Internet. Sollicitez au moins 3 fournisseurs pour fixer un coût moyen. Retenez ce dernier et non le moins cher. Répétez l'opération pour chacun de vos projets. Fixez aussi une date de réalisation pour ceux-ci. Calculez une valeur théorique future en tenant compte de l'inflation. Ce genre d'exercice révélera 2 choses. Vos projets, évidemment, coûteront plus cher qu'anticipé. Vous devez ajuster votre train de vie avant la retraite pour les financer. Il est possible de le faire sans douleur, car ce sont de petites dépenses qui coûtent le plus cher. Ainsi, un café au quotidien au restaurant, attention, peut représenter 960 $ par année. Instaurez un compte CELI dédié à vos comptes, à vos projets de retraite, alimenté par un virement automatique, par exemple, à chaque jour de paye ou à chaque semaine de paye. C'est beaucoup mieux que de laisser dormir votre argent dans un compte bancaire. Enfin, vous devez examiner vos placements. Si le rendement moyen après impôts et frais est de 3 %, votre gain réel sera donc de 1 à 1,5 %. Pas de quoi réaliser vos rêves. Donc, une discussion avec un conseiller financier s'impose certainement. C'était donc une petite réflexion sur les rêves de la retraite avec leur coût. Un texte de Stéphane Desjardins dans la revue Virage. Nous voici de retour. Alors, Francine Forget reprend un thème favori à cette émission. Je te laisse aller.
Alors, j'enchaîne avec les bras. On va parler de l'impression des bras et des artères. C'est dans le cabinet des curiosités. Alors, je vous rappelle que c'est une bon chronique ça. Dans Québec Science, septembre 2018, et c'est Marine Courniaux qui la signe. Les imprimantes 3D gagnent du terrain dans tous les secteurs industriels, depuis l'aérospatiale jusqu'aux nanotechnologies, et elles promettent aujourd'hui de repousser les limites de la médecine. Une pièce de jeu d'échecs, une figurine de monstre ou un objet au dessin alambiqué. Il y a quelques années, les imprimantes 3D se limitaient à reproduire des babioles en plastique d'une utilité relative. Mais elles sont aujourd'hui en passe de bouleverser la médecine. C'est une révolution pour la pratique, une de celles qui n'arrive que tous les 25 ans. Cela amène des solutions à des problèmes qui n'en avaient pas jusqu'ici, se réjouit le docteur Gaston Bernier. Ce dentiste oncologue au CHU de Québec utilisera cette technologie pour concevoir des prothèses mandibulaires en titane. C'est une première au pays. Nous espérons obtenir l'homologation de Santé Canada à l'été 2019 pour proposer ces prothèses aux patients, dit celui qui est sur le point d'inaugurer un centre intégré d'impression 3D médicale en collaboration avec le Centre de recherche industrielle du Québec. La fabrication additive, qui consiste à imprimer des objets en superposant de fines couches de matière, permet de produire des espèces sur mesure, des pièces sur mesure, légères et sans assemblage, à un coût parfois bien inférieur aux prothèses classiques. Depuis quelques années, le nombre de matériaux et composés imprimables ne cesse d'augmenter, élargissant le champ des possibles métaux, polymères, biocompatibles et même médicaments, molécule par molécule. Un nombre croissant d'hôpitaux, dont plusieurs au Canada, ont déjà recours à l'impression 3D pour produire des prothèses externes de bras, entre autres. À partir d'un scan du patient, on crée un modèle informatique qu'on imprime ensuite, explique José Luis Hoyo, qui est technicien à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Le CIM a aussi déjà reçu la visite de chirurgiens expérimentés qui ne savaient pas comment retirer une tumeur hépatique mal positionnée. En manipulant une copie 3D du foie du patient concerné, l'équipe a pu se préparer à l'intervention. Une sorte de répétition générale. La planification des procédures permet aux chirurgiens d'être plus efficaces, de gagner du temps et de réduire les saignements, commente le docteur Gaston Bernier. Prochaine frontière, l'impression de tissus biologiques. Des chercheurs ont réussi en 2017 à imprimer des cellules de cartilage, de peau ou d'os. D'autres travaillent sur l'impression de structures biodégradables saupoudrées de cellules qui prolifèrent pour reformer un tissu continu. D'ici 10 ans, on aura des cœurs imprimés conservés au congélateur, parle José Luis Hoyo. Décidément, on est loin des premiers gadgets en plastique, n'est-ce pas? Alors, c'était le cabinet des curiosités, Marine Cornio, imprimé des bras et des artères, dans Québec Science, septembre 2018.
Ça me donne une grande confiance dans le... Et aussi, comme de l'espoir avec toute la technologie qui se développe à la vitesse grand V.
Oui.
Ouf, que c'est bon.
Oui, la science dans sa plus grande utilité.
Merci beaucoup, Francine.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est finesse tactique de ces femmes origines qui féminisent gros guise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive.
Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
C'était Eddie de Préto qui nous chantait Kid.
Merci beaucoup, Maurice. Alors, nous sommes de retour, Hélène Bédard et Francine Forget en studio. De mon côté, je voudrais vous parler du plan municipal, du plan d'action municipal pour les personnes aînées qui a été dévoilé. C'est un plan qui va de 2018 à 2020. Alors, c'est paru dans la revue Virage et c'est la FADOC qui se fait le porte-parole de ramener cette publication. Alors, il a été présenté par de la Ville de Montréal, a été dévoilé le 15 juin dernier dans le cadre du 30e colloque du Carrefour d'action municipale et famille, et présenté par la mairesse Mme Valérie Plante et Mme Rosanie Filato, conseillère au dossier des aînés de la Ville. Rappelons que ce plan d'action résulte d'une démarche consultative de janvier à mars 2018 auprès des milieux institutionnels et communautaires ainsi que des personnes aînées par le biais de sondages en ligne, de rencontres, d'échanges dans divers secteurs de la ville. 4 axes d'intervention visant l'amélioration de la qualité de la vie des aînés se dégagent du plan d'action. Le premier, faire de Montréal et de ses quartiers un milieu de vie où les aînés pourront se déplacer facilement et en sécurité. Deuxième, veiller à combattre l'exclusion et la maltraitance tout en favorisant l'inclusion et le respect de la diversité. Ensuite, favoriser la participation citoyenne. Et en dernier lieu, et non pas le moindre, placer la population aînée au cœur des échanges afin de refléter les priorités des personnes aînées. Pour y arriver, une série de mesures sont identifiées, entre autres l'implantation de mesures qui facilitent les déplacements des personnes aînées à pied ou en quadriporteur ou en triporteur, bonification des horaires de tarification et de programme des activités sportives pour les personnes âgées, maintien du modèle d'intervention policière auprès des aînés maltraités du service de police de Montréal, révision des critères d'installation de feux piétonniers, tiens, bonne idée, l'affichage du nom des rues avec des caractères plus gros, très bonne idée, et plusieurs autres. À l'image des instances consultatives telles que le Conseil des Montréalaises, Conseil interculturel, Conseil de la jeunesse et la création du Conseil des aînés mis de l'avant, n'a toutefois pas été retenue. La mairesse, Mme Valérie Plante, a indiqué lors du dévoilement du plan d'action que la Ville désire mettre en place une représentation des aînés sur les différents comités consultatifs de la Ville. La FADOC, Région Île-de-Montréal, estime que les orientations prises pour faire de Montréal une métropole à l'image des personnes aînées sont louables. L'organisme compte poursuivre sa représentation auprès de la Ville sur différents dossiers visant le bien-être des personnes aînées. Alors voilà, c'était un court survol du plan d'action municipal dévoilé par la Ville de Montréal. C'est paru dans Virage. C'est bon.
Excusez-moi, Hélène.
Vas-y.
Alors, on revient, on va finir avec le goudron. À quelle température le bitume des routes font-ils? C'est dans la revue Science et Vie de l'été 2018. Tout dépend du type de liant utilisé pour agréger les granulats sur les routes, car il en existe plusieurs et mécaniquement, cela implique des températures de ramollissement différentes. Dès lors, il faut prendre en compte la composition en molécules hydrocarbonées, mais aussi son mode d'obtention. Verdict, le bitume le plus mou utilisé en France, par exemple, perd de sa consistance dès 35 degrés Celsius, tandis que le plus dur tient jusqu'à 70 degrés Celsius. Mais celui qui est le plus largement utilisé se ramollit, lui, à partir de 50 degrés Celsius. Alors, pourquoi on ne prend pas toujours le plus dur? Parce que semble-t-il que l'hiver n'aime pas ça. Il craque.
Merci beaucoup, Francine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, Maurice, à la régie. Merci, Francine Forget. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.
Au revoir.